Galade 100.9. Parlons équilibre. Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlons Équilibre, une émission préparée par l'association Équilibre et moi sur Caladma Radio 100.9. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet longtemps resté tabou, parfois mal compris, mais qui occupe une place de plus en plus importante dans le domaine du bien-être et de l'accompagnement. Nous allons parler de sexothérapie. Pendant des années, la sexualité a été un thème mis de côté, souvent entouré de silence, de gêne ou de non-dit. Mais les mentalités évoluent. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Angie Millard, sexothérapeute, qui va nous éclairer sur l'importance de la parole autour de la sexualité. Bonjour Angie.
Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde, auditeurs, auditrices. Bonsoir Najet.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter et de nous expliquer aussi qu'est-ce qui vous a conduit vers la sexothérapie ?
Eh bien, donc je suis Angie Millard, je suis sexothérapeute et coach conjugal. Mon rôle, c'est d'accompagner les individus et les couples à retrouver une vie intime et relationnelle épanouissante en travaillant sur les difficultés, les blocages, mais aussi sur la communication ou encore la confiance en soi. J'exerce en libéral au sein du pôle de santé Synergie qui se situe dans la zone commerciale de La Lagune à Villefranche. Et ce qui m'a conduit vers la sexothérapie, eh bien, je dirais que c'est la conviction profonde que la sexualité est une dimension essentielle et trop souvent négligée vraiment de notre bien-être. J'ai constaté que beaucoup de souffrances restent silencieuses par manque d'informations ou par peur d'en parler. Et mon moteur, ça a vraiment été mes enfants, mais aussi leurs amis que j'accompagnais avec aisance et rassurance. Notamment face à un manque d'éducation très parlant, très marqué. Mmh. Et j'ai très vite eu à cœur d'aider d'autres personnes à dénouer leurs blocages et à vivre une vie affective et sexuelle plus riche et plus sereine.
Mais Angie, qu'est-ce que la sexothérapie ?
Ah, la sexothérapie, c'est une démarche à pratiquer seule ou accompagnée, hein, permettant d'identifier les difficultés émotionnelles ou sexuelles que l'on peut rencontrer tout au long de sa vie, afin de retrouver une harmonie avec les autres, mais surtout avec soi-même. Et c'est vraiment pour parvenir à son épanouissement physique et psychique.
D'accord. Mais comment la sexualité s'intègre-t-elle dans la santé globale, en fait, d'une personne ?
Alors ça, c'est l'essence même de mon message. La sexualité est un pilier de la santé globale, au même titre que l'alimentation ou encore le sommeil, en fait. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'a enfin intégré dans sa définition de santé globale, et il était temps. Donc, quand votre sexualité est épanouie, cela renforce l'estime de soi, ça réduit le stress, ça favorise l'intimité avec son partenaire. Et puis, il y a également inversement, des problèmes sexuels non traités peuvent entraîner vraiment de l'anxiété ou de la dépression ou encore des tensions conjugales. Donc, c'est pourquoi prendre soin de sa sexualité, c'est prendre soin de soi et de sa qualité de vie.
D'accord, dans sa globalité.
Dans sa globalité, tout est lié.
Et quels sont les motifs les plus fréquents qui amènent les personnes à consulter ?
Ah, alors là, les motifs sont variés, mais on retrouve beaucoup de thématiques classiques. Chez les femmes, je dirais les douleurs ou la baisse de libido, mais aussi beaucoup de traumatismes. Et chez les hommes, ce serait plutôt les problèmes d'érection ou encore les situations d'infidélité. Et pour beaucoup de couples, ils viennent également pour des problèmes de communication. C'est une thématique qui revient très régulièrement. Mm-hmm. Les divergences de désir aussi, ou simplement pour retrouver une sexualité plus satisfaisante après une naissance, un événement de vie, ou même après juste des années de routine.
Avez-vous constaté d'ailleurs ces dernières années une évolution dans la manière dont les gens parle de leur sexualité? Est-ce qu'il y a toujours ces fameux tabous, justement, qui entourent ce thème?
Alors, une évolution, oui, absolument. Il y a un changement majeur, je dirais. On remarque très clairement deux tendances. D'abord, on parle beaucoup plus de consentement et de respect des choix individuels. Ensuite, les jeunes générations sont plus à l'aise avec la diversité des identités et des orientations.
Mmh. Les jeunes générations, c'est-à-dire par rapport à l'âge
J'ai envie de dire les 30 ans et moins.
D'accord.
Eux, ils vont être plus à l'aise avec la diversité des identités. Attention cependant, il y a quand même une certaine forme de pression à la performance qui reste très présente, même chez les jeunes, surtout chez les jeunes, j'ai envie de dire, notamment à cause de la pornographie. Hein. Mm-hmm. Ça crée des attentes souvent irréalistes et ça crée de nouvelles souffrances. Hein. Mmh. Et puis, les tabous, ils reculent, oui et non, j'ai envie de nuancer. D'un côté, les tabous classiques reculent, oui, et c'est plutôt positif.
Alors, c'est quoi les tabous classiques ?
Ah, les tabous classiques, c'est l'homosexualité, la bisexualité, voilà, ce genre de petites choses. Mmh. On aborde aussi davantage la question du plaisir féminin, et ça, c'est un vrai progrès historique. Les sujets qui autrefois étaient un petit peu chuchotés, comme les règles menstruelles, les premières expériences sexuelles ou la masturbation, sont également plus ouverts. Enfin, je trouve que l'information circule un peu mieux et c'est dû également à l'éducation qui, dans le domaine, là, évolue vraiment.
D'accord. L'éducation, c'est peut-être dû aussi aux réseaux sociaux, aux émissions.
Réseaux sociaux, attention, il faut se méfier, c'est positif et négatif. Hein. Il y a beaucoup de fake news qui circulent et qui font beaucoup de mal à cette jeune génération qui sont en quête de réponses. Donc, méfiance. La pornographie également fait des ravages et là encore, méfiance. Mais il y a des tabous un peu plus anciens qui persistent.
Comme quoi, par exemple ?
Qui créent encore de grandes souffrances, comme par exemple l'omniprésence sexuelle. C'est un tabou sur cette forme de normalité qui n'en est pas une, rappelons-le. Celui de l'insatisfaction aussi. On est dans une société où on doit être performant partout, y compris au lit, hélas. Et avouer qu'on n'a pas envie, ou qu'on n'y trouve pas son compte, ou encore qu'on ne sait pas faire, ça reste un sujet encore très difficile à aborder. Et c'est ce silence-là vraiment que je combats.
D'accord. Même dans les relations intimes, c'est-à-dire que dans ces relations-là, on n'ose pas, on ne dit pas, c'est ça ?
On n'ose pas aujourd'hui, c'est une constatation forte au sein du cabinet, c'est qu'on préfère mal faire et ne rien dire. Et donc, on subit cette intimité et forcément, c'est chaotique. Et ça a des répercussions évidemment négatives sur cette relation.
D'accord. Et je pensais aux émotions d'ailleurs. Quel rôle jouent les émotions et l'histoire personnelle d'ailleurs dans les difficultés sexuelles ?
Ah elles sont au cœur de tout. La sexualité n'est jamais purement mécanique. Elle est le reflet de notre état émotionnel et de notre vécu. Donc une performance sexuelle peut être bloquée par un stress au travail, une anxiété liée à l'image corporelle ou des blessures émotionnelles passées, parfois même très lointaines. Un deuil, un traumatisme, un manque d'estime de soi, tout cela s'inscrit vraiment dans le corps et dans la salle à coucher. Donc mon travail consiste vraiment à remonter le fil de cette histoire pour libérer le corps et l'esprit.
D'accord. Et c'est cette fameuse phrase « Non, je n'ai pas envie, j'ai une migraine », qu'en pensez-vous ?
C'est souvent une excuse parce qu'on n'assume pas cette baisse de libido, ce manque de désir, parce qu'on ne veut pas aller au conflit, parce qu'on a très peur de blesser l'autre, et puis on essaye d'être arrangeant. Et donc, on en arrive à devoir trouver une excuse, souvent la facilité, plutôt que d'aborder le fond de la problématique.
Il vaut mieux dire la vérité, ce qu'on pense.
Vaut mieux travailler la transparence et la communication au sein de sa relation.
Mais c'est pas évident quand on est inhibé de, de fausses croyances et puis de ces tabous, là où on ne dit pas, il ne faut pas parler de sexe.
C'est jamais simple, mais ce que je constate également, c'est qu'on préfère une nouvelle fois pratiquer plutôt que d'en parler.
D'accord.
Et tant que ça sera dans ce sens-là, évidemment, ça ne se passera pas très bien.
D'accord. Et on vous consulte pour ça. Et quel conseil donnez-vous, justement, à ces personnes ?
C'est la thématique que je travaille le plus, c'est la communication. C'est la clé d'une relation. Donc, tant qu'on n'apprend pas à se dire les choses, à se les dire bien, d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas là pour blesser, mais on est là pour construire, tant que ce travail n'est pas fait, le reste sera un petit peu bancal, j'ai envie de dire. Il faut un pilier solide.
D'accord. Bien. Eh bien, allez, petite pause musicale avec Camille, que je t'aime.
tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor.
Camille, que je t'aime, sur Calade Ma Radio. Revenons à la sexothérapie avec Angie Millard, donc sexothérapeute. Et vous nous avez parlé de communication. Et bien, à quel point justement la communication au sein du couple est-elle centrale dans votre travail ?
La communication, elle n'est pas centrale, elle est fondamentale. Mmh. La majorité des problèmes sexuels trouvent leur source dans les non-dits, dans les malentendus ou, comme je le précisais, dans la peur de blesser l'autre. Savoir exprimer son désir, ses limites, ses peurs et surtout écouter celle de l'autre, mais c'est la clé de l'intimité. C'est pourquoi je propose des consultations personnalisées visant à favoriser une communication ouverte, résoudre les conflits et enrichir la sexualité de mes patients. Mon objectif est vraiment de créer un espace bienveillant et sans jugement où chacun peut explorer ses besoins et ses désirs pour une vie amoureuse et sexuelle harmonieuse.
Et est-ce que ça aide bien justement de pouvoir parler à une personne tierce ?
Souvent on me dit, mais alors quel apaisement de venir vous parler ici, je n'ai jamais cet espace de liberté et de parole dans la société, et c'est quelque chose de très rassurant et de très constructif.
Oui. Alors dites-nous, comment se déroule une séance en sexothérapie ?
Alors, tout d'abord, il est crucial de souligner qu'il n'y a absolument aucun contact physique ni examen dans mon cabinet. Je ne déshabille pas ma patientèle.
Oui, c'est souvent logique,
source d'angoisse ou de déception.
D'accord.
Messieurs, je ne vous déshabillerai pas. La consultation, elle est exclusivement verbale. Elle dure environ 45 à 60 minutes. On est installé très confortablement dans des fauteuils individuels, dans un espace chaleureux, au sein d'un cabinet moderne. Finalement, c'est un peu comme, comme consulter un psy, mais, mais version intime, quoi.
D'accord. Et alors, du coup, à quoi peut s'attendre une personne qui pousse la porte de votre cabinet pour la première fois ?
Alors, la première rencontre, c'est souvent une étape de découverte, pour l'un comme pour l'autre, hein, pour le patient comme pour le soignant. On doit s'attendre à être écouté sans jugement, mais surtout, on doit être prêt à balayer nombreuses idées reçues. Je pose beaucoup de questions lors de cette première rencontre pour établir ce que j'appelle un peu un bilan sexuel et relationnel. Donc, quelle est l'histoire personnelle et intime ? Quel est le contexte professionnel, familial, médical ? Je demande également l'objet de cette première visite, l'élément déclencheur, s'il y en a un, ou encore les attentes envers cette thérapie pour établir des objectifs clairs. Enfin, je présente ma façon de travailler et on conclut, ensemble, à la poursuite ou non de cet accompagnement. En tout cas, sachez qu'un premier rendez-vous n'engage vraiment en rien.
Et combien de rendez-vous faut-il justement pour régler le problème ?
Alors ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Mmh. Et bien sûr, ça va dépendre de la problématique, mais également de la facilité ou non à se réinventer. Dans l'accompagnement, il y aura bien sûr donc, des défis, des challenges, des petits exercices, beaucoup de nouveautés. Et en fait, je peux rencontrer de la difficulté, surtout si ça fait de nombreuses années que je suis face à cette problématique. Donc là, il n'y a pas de réponse, j'ai envie de dire, universelle. Chacun y va à son rythme.
D'accord. Alors, travaillez-vous différemment avec une personne seule et avec un couple, par exemple ?
Alors oui, bien sûr, l'approche est différente, hein, car l'objet du travail change. En thérapie individuelle, nous nous concentrons plutôt sur l'histoire personnelle, l'estime de soi, les traumatismes souvent, ou encore l'autonomie du plaisir de la personne. L'objectif est de lui permettre vraiment de se réconcilier avec sa propre sexualité. En revanche, en thérapie de couple, l'accent est plutôt mis sur, sur l'interaction entre les deux partenaires. Nous allons davantage explorer les dynamiques relationnelles. Qui initie, qui refuse, comment se font les demandes. Et surtout, comment gérer les différences de désir pour que chacun puisse vraiment se sentir écouté et valorisé.
Mmh. Et c'est plus facile de venir consulter seul ou à deux ?
C'est plus facile seul. Seul, les langues se délient beaucoup plus. Une nouvelle fois, on n'est pas dans, dans la peur, dans la crainte.
Du regard de l'autre ?
Exactement, de sa réaction, quelle blessure on va pouvoir ouvrir. Peur du jugement également, parce que c'est très fort quand même au sein des relations. Donc les thérapies individuelles, souvent on est beaucoup plus à l'aise et on se confie bien plus.
Bien. Et je pensais aux idées reçues. Quelles sont les idées reçues les plus fréquentes autour de la sexualité et de la sexothérapie d'ailleurs ?
Ouh là là, il y en a beaucoup. là, comme ça, j'ai trois grands sujets qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est qu'on a tendance à croire que le désir doit être spontané. Or, c'est faux. Pour beaucoup de personnes, et surtout pour les femmes, le désir, c'est souvent réactif.
Alors, c'est quoi le désir ?
Le désir, c'est cette flamme qu'on va ressentir, c'est ces petits papillons, c'est cette braise dans les yeux, vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait devenir une autre personne au contact de ce partenaire, qui nous fait fondre, tout simplement. Et non, ce n'est pas automatique, pas du tout, ça se travaille, c'est ce qu'on appelle la phase de contamination. Et elle est très peu sue dans la société, et c'est dommage parce que j'ai envie de dire, c'est la principale, c'est la plus essentielle dans notre approche.
Et c'est surtout quelque chose qui doit durer dans le temps.
C'est quelque chose qu'il faut alimenter sans cesse. Souvent, je le dis, un couple, c'est comme un feu, c'est comme une flamme. Eh bien, si on laisse la flamme s'amenuire, évidemment, on va avoir beaucoup moins chaud. Mmh. Mais si on remet une bûche de temps en temps,
ah, oui,
pour l'alimenter, et c'est vraiment tout le poids, toute la valeur de la nouveauté. Apprenons à nous réinventer. Donc ça, c'est vraiment un des premiers sujets. Le deuxième, j'ai envie de dire, des idées les plus fréquentes vraiment perçues, c'est que la sexualité diminue avec le temps ou avec l'âge.
Oui, non ?
Mais non, il n'y a pas de date de péremption. Mais non, pas du tout, c'est une vision assez fataliste. Les seniors ont également le droit de s'épanouir, oui, différemment, bien sûr. Ça va devenir plus sensuel, plus calme. Mais l'important est de s'y adapter. Mais enfin, tôt ou tard, moi, je vais être senior et vous également. Mais je n'ai pas envie qu'on passe sous silence cette part importante de ma vie. J'ai envie qu'elle continue d'exister. Or, hélas, dans notre système d'aujourd'hui, on rend ce sujet très tabou encore. Ne l'oublions pas. Enfin, j'ai envie de dire, la sexothérapie, souvent, on a cette image de « c'est pour les cas graves ». Alors, absolument pas. Consulter, ce n'est pas être malade. C'est juste faire un bilan de sa vie sexuelle. C'est investir dans son bonheur personnel et dans son couple. Souvent pour des sujets en plus très simples, comme le manque de fantaisie ou un stress passager. Alors oui, je suis formée et j'accompagne également des cas dits pathologiques, mais ce n'est pas du tout la majorité de ma patientèle.
D'accord, d'accord. Donc une personne lambda peut venir...
Mais tout à fait.
Mais quel message, justement, aimeriez-vous transmettre à une personne qui hésite à consulter un sexothérapeute ?
En fait, mon message est simple et fort. N'attendez pas que le problème devienne une souffrance personnelle, insupportable, ou encore une menace pour votre couple, en fait. La sexualité, si je fais un petit peu un parallèle, c'est comme votre santé dentaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez une carie, vous allez tout de suite chez le dentiste avant que le mal ne s'étende, quoi. On n'en veut pas de l'arrache de dents. Bon, c'est la même chose pour votre intimité. Donc, consulter un ou une sexothérapeute, c'est faire preuve de courage et d'intelligence. C'est prendre soin de soi, de son couple. Souvent, je le sais bien, le plus difficile, c'est de placer le premier rendez-vous. Mais après, la démarche, elle est bienveillante, elle est structurée et surtout, le lien est établi avec le professionnel de santé, quoi. Attention toutefois, j'alerte à bien vérifier le cursus professionnel, car cette profession, ma profession, n'est pas réglementée.
D'accord.
Donc, quiconque peut s'inventer sexothérapeute sans aucune formation.
D'accord.
Vérifiez bien si la formation a été validante, si elle a été suivie et aboutie. S'il y a eu bien des diplômes à ce sujet-là, j'alerte parce que, pardon, mais il y a des charlatans qui s'inventent sexothérapeutes du jour au lendemain avec aucune formation ou très légère. Je vois passer des formations de 6 heures, de 2 semaines. Enfin, c'est totalement insuffisant et bien sûr qu'il faut une approche médicale.
Et psychologique.
Et psychologique.
Bien. Merci, Angie Millard, sexothérapeute. Merci pour votre présence et pour cet échange riche et éclairant. C'est vrai que parler de sexualité, c'est parler d'intimité, d'émotion, de respect de soi et de respect de l'autre aussi. C'est aussi oser lever les tabous et permettre à chacun de se sentir entendu, compris et accompagné. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre bien-être et de votre relation à l'autre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons Équilibre sur Radio Calade, ma radio 100.9.
Calade 100.9.
Parlons équilibre.